Voilà, comme d'habitude, demandons à l'Esprit Saint de nous venir en aide pour la compréhension de ce que, pas de ce que moi je vais dire, mais de ce que le Seigneur veut dire à travers moi. Que nous sommes pauvres, Seigneur, face de ta parole. Combien nous avons besoin que tu sois là, Esprit Saint, que nous la comprenions en profondeur. Ne permets pas, Seigneur, que ce soit un moment que nous venons passer ici et qu'en ressortant, Seigneur, nous n'ayons rien appris de toi. Permets au contraire, Seigneur, que les paroles qui vont être dites se gravent dans nos cœurs. Celui qui parle, Seigneur, soit vraiment inspiré par le Saint-Esprit, de façon à ce que ce ne soit pas des paroles d'homme qui soient données maintenant, mais des paroles qui viennent de l'Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de comprendre ta parole, parce que ta parole, comme il est dit, est une lampe à nos pieds. Si nous ne comprenons pas ta parole, Seigneur, où est la lumière ? Dans nos vies. Alors tu as permis que nous la comprenions déjà un peu, mais tu désires, Seigneur, que nous la comprenions beaucoup plus en profondeur. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, maintenant. Amen. Voilà, je vais lire dans quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, donc au chapitre 2 des Actes, à partir du verset 29 jusqu'au verset 39. Jusqu'au verset 36. Le passage que je vais lire se situe donc après la Pentecôte, bien sûr. Enfin, pas bien, oui, bien sûr, pour ceux qui connaissent bien. Et ça fait partie du discours de Pierre. Et voilà ce que dit donc Pierre à ces hommes et ces femmes qui ont assisté à l'effusion de l'Esprit à Jérusalem, la première effusion de l'Esprit à Jérusalem le jour de Pentecôte. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Je soulignerai le verset qui vient. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Comme dans les deux précédentes méditations que j'ai pu donner, donc je m'inspire toujours abondamment du livre de Watchman Nee qui s'appelle La vie chrétienne normale. Le thème, bien sûr, vous l'avez sans doute compris, portera sur le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quelle image nous faisons-nous du Saint-Esprit? Certains chrétiens le considèrent simplement comme une bonne influence qui nous reprend lorsque nous avons mal agi et qui nous montre comment être de bons chrétiens. Si c'est le cas, cela veut dire que nous confondons la conscience et l'Esprit Saint. En effet, ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens lorsqu'il parle de l'Esprit Saint est radicalement différent. Qu'écrit-il ? 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19 aussi, qui reprend à peu près les mêmes termes. « Ne savez-vous pas, leur dit-il, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint demeure en vous ?» En d'autres termes, dans 1 Corinthiens 6, 19, il est précisé « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» En d'autres termes, Paul affirme que Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, est venu faire sa demeure en nous. Le mot « temple » que Paul emploie ici n'est pas dû au hasard. De même que le temple de Jérusalem était la demeure de Dieu, de même notre corps est la demeure du Dieu vivant, si nous avons la foi en Christ. Si le Saint-Esprit demeure en nous, cela veut dire que le Père et le Fils y demeurent aussi. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, c'est une réalité. L'Esprit qui demeure en nous est une personne vivante. C'est Dieu lui-même. Nous ne sommes que des vases de terre, comme dit Paul en 2 Corinthiens 4, 7. Mais dans ces vases, nous portons un trésor inexprimable. C'est quoi ce trésor? C'est le Seigneur de gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Et nous portons Dieu en nous. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? C'est une question que se posent beaucoup de chrétiens qui s'inquiètent de savoir s'ils ont reçu l'Esprit Saint ou s'ils ne l'ont pas reçu. Il est donc important d'apporter une réponse à cette question. Pourquoi? Parce que Paul affirme, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est point à lui. Ce verset simple et facile à comprendre nous montre l'importance de ce don si nous voulons appartenir à Christ. Il faut donc que chaque chrétien soit au clair avec le don du Saint-Esprit. Comme un Père aimant, comme tous les Pères aimants, Dieu veut faire des dons à chacun de ses enfants. Mais il ne les accorde pas au hasard, il ne les distribue pas de façon arbitraire. Ils sont donnés, ces dons, gratuitement, à tous, sur une base bien définie. Quelle est cette base? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Remarquons d'abord que le don de l'Esprit n'est pas à l'apanage du Nouveau Testament. De nombreux textes de l'Ancien Testament parlent aussi du don de l'Esprit. Mais à leur lecture, on se rend compte que ce don était répandu sur certains hommes seulement, les sacrificateurs, les juges, les rois et les prophètes. Aujourd'hui, c'est le privilège de chaque croyant en Christ, comme l'avait prophétisé le prophète Joël et comme le rappelle Pierre dans son premier discours après la Pentecôte. Je relis les passages qui sont importants. Dans les derniers jours, dit Dieu, nous sommes les derniers jours. Les derniers jours, ça commence avec la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Actes 2, 17 et 18, qui cite Joël 3, chapitre 3, versets 1 à 5. Dès que nous mesurons la valeur de ce don de Dieu et que nous comprenons l'immense besoin de le posséder, nous nous demandons immédiatement, mais comment puis-je recevoir le Saint-Esprit de manière à être pourvu de dons spirituels et rempli de puissance pour le service du Seigneur? Sur quelle base l'Esprit-Saint est-il donné aux croyants? Eh bien, regardons ce que Pierre déclare dans le texte que je vous ai lu, Actes 2, 32. Je cite, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis. » Qu'est-ce qui s'est passé après? Il l'a répandu, l'Esprit-Saint, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Arrêtons-nous un instant sur ce verset très important. Pierre déclare que Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Quel a été le résultat? Il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis. Que s'est-il produit ensuite? Jésus a répandu le Saint-Esprit sur les croyants rassemblés à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le résultat de l'élévation de Jésus a été ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu sur les disciples rassemblés. Nous voyons que le Saint-Esprit a d'abord été donné à Jésus pour que Jésus le répande ensuite sur son peuple. Quand ça, à la suite de son élévation dans les cieux. Comprenons bien ceci. Le Saint-Esprit a été répandu sur les croyants parce que le Seigneur Jésus a été exalté comme Seigneur. La leçon qu'il faut tirer de tout ça, frères et sœurs, et c'est ça qui est important, c'est que l'effusion de l'Esprit n'a aucun rapport avec nos mérites, mais uniquement avec les mérites du Seigneur. La question de ce que nous sommes n'entre pas du tout en considération. C'est ce que Jésus est qui entre en considération. Il est glorifié et c'est la raison pour laquelle l'Esprit est répandu sur les croyants. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à faire un bilan des bénédictions spirituelles que Dieu nous a accordées en Christ. Pourquoi avons-nous reçu le pardon de nos péchés? À cause de nos mérites? Non. Parce que Jésus est mort sur la croix. Pourquoi avons-nous reçu la vie nouvelle? À cause de nos mérites? Non. Parce que Jésus est ressuscité. Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? À cause de nos mérites? Non, parce que Jésus ressuscité a été élevé dans les cieux à la droite du Père. Cela signifie, frères et sœurs, que tout est à cause de lui et que rien n'est à cause de moi. La rémission des péchés n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la crucifixion du Seigneur. La régénération n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la résurrection du Seigneur. Être revêtu du Saint-Esprit n'est pas basé sur le mérite humain, mais sur l'élévation du Seigneur. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur vous ou sur moi pour montrer combien notre foi ou ma foi est grande, mais pour manifester la grandeur du Fils de Dieu, pour manifester sa seigneurie. Arrêtons-nous maintenant sur Actes 2.36, qui dit la chose suivante. Que toute la maison d'Israël tienne donc pour certain que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dans ce petit mot, donc, il y a une conséquence. En substance, Pierre dit à son auditoire, cette effusion de l'Esprit dont vous êtes témoin de vos yeux, c'est la preuve que Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, est bien maintenant Seigneur et Christ. Pour le dire autrement, le Saint-Esprit a été répandu sur la terre pour démontrer ce qui a eu lieu dans les cieux. L'élévation de Jésus de Nazareth à la droite de Dieu, en d'autres termes, Pentecôte est la preuve de la souveraineté de Jésus-Christ. Alors, aux croyants qui doutent encore d'avoir reçu l'Esprit Saint, je pose la question suivante. Sur quelle base avez-vous reçu le pardon de vos péchés ? Est-ce parce que vous avez prié avec beaucoup de sérieux ? Ou parce que vous avez lu la Bible plusieurs fois en entier ? Peut-être même en grec ou en hébreu ? Ou parce que vous êtes allé régulièrement au culte ou à la messe ? Ou parce que vous avez donné la dîme ? Est-ce à cause de vos mérites ? Non. Vous croyez que vos péchés ont été pardonnés gratuitement parce que le sang de Jésus a été versé. Eh bien, c'est le même principe pour le Saint-Esprit. L'Esprit a été répandu sur nous gratuitement parce que Jésus a été glorifié. Nous avons été justifiés non pas en cherchant à faire quelque chose. On est fort pour faire. On a souvent été éduqués comme ça, d'ailleurs. Nous avons été justifiés non pas en cherchant à faire quelque chose, mais en acceptant le fait que le Seigneur Jésus a tout accompli. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit exactement de la même manière. Non pas en comptant sur nos bonnes actions, mais en mettant notre foi en ce que le Seigneur a déjà accompli. De même que pour le pardon de nos péchés, la venue du Saint-Esprit sur nous est entièrement une question de foi. Il y a beaucoup d'ambiguïté à propos de certaines réunions qui sont organisées sur plusieurs semaines pour préparer les croyants à recevoir l'Esprit Saint. Vous avez connu ça ? Lorsque ces réunions sont mal présentées, Pour moi, ces réunions sont valables si on fait comprendre d'abord à la personne qui vient à ces réunions que Jésus est son Seigneur et Sauveur et qu'il faut qu'il l'accepte. Mais si ce n'est pas présenté comme ça, cela pourrait sous-entendre que le Saint-Esprit est accordé aux chrétiens quoi ? Aux chrétiens qui font des efforts pour le recevoir. Non. Non. L'Esprit est répandu sur la base de ce que Christ est, et seulement sur cette base-là. Aucun enfant de Dieu n'a besoin de languir, ni même d'attendre, pour que l'Esprit soit donné. Jésus ne va pas être fait Seigneur dans l'avenir. Il est Seigneur. Je ne vais pas recevoir l'Esprit Saint dans l'avenir, dans quelques semaines, après une retraite spirituelle, ou que sais-je encore. Non. Si je suis né de nouveau, j'ai reçu l'Esprit Saint. Tout est une question de foi qui nous vient par une révélation. Lorsque nos yeux sont ouverts pour voir que l'Esprit a déjà été répandu parce que Christ a été glorifié, alors la prière inquiète se change dans nos cœurs en louange. Merci, cher Seigneur, parce que tu as répandu ton Esprit sur moi, gratuitement. Y a-t-il des conditions pour recevoir le don de l'Esprit ? Eh bien, la prophétie de Joël nous donne un début de réponse. Qu'est-ce qu'il dit ? Le Saint-Esprit est répandu sur les mécréants, sur les serviteurs du Seigneur. Et Pierre précise les choses lorsque ses auditeurs lui demandent à la fin de son discours « Mes frères, mais que ferons-nous ? » Ils étaient hyper inquiets. Ils avaient compris ce que Pierre leur avait dit, mais ils disent « Mais qu'est-ce qu'on fait, Pierre ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et quoi ? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Frères et sœurs, vous avez reçu le baptême. Vous l'avez bien vécu, votre baptême. Même si vous avez été baptisé enfant, après vous avez compris ce que c'était que le baptême. Vous vous êtes repenti du fond de votre cœur ? Vous croyez que le sang de Jésus a effacé vos péchés ? Alors, je vous annonce une bonne nouvelle si vous ne la connaissiez pas déjà. Vous avez reçu le don de l'Esprit. Mais j'ai rien ressenti. Penseront certains qui se mettent à douter. En pensant aux trois récits des actes des apôtres dans acte 2, qui est la Pentecôte, acte 10 et acte 19, ou à des témoignages contemporains qu'ils ont lus, où la venue de l'Esprit a été suivie de manifestations visibles et parfois étonnantes, comme les tremblements ou comme le parler en langue. C'est vrai tout ça. C'est vrai. Ça existe. Mais est-ce une raison pour douter de la promesse si nous n'avons rien ressenti ? La foi, elle n'est pas liée sur ce qu'on, elle n'est pas liée à ce qu'on ressent. Elle est liée à la confiance que l'on place dans la vérité de la parole. Vous le savez comme moi, frères et sœurs. Ce qu'on ressent, c'est fluctuant selon les circonstances de notre vie, comme je Souvent, je l'ai dit, il suffit d'une bonne rage de dents pour voir les choses complètement différemment. Ce qu'on ressent est fluctuant, vous le savez tous. Mais la parole de Dieu, elle, c'est une vérité immuable. Que vous ayez ressenti quelque chose ou pas, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, vous savez que vos péchés sont pardonnés. C'est la même chose pour le don de l'Esprit. Parce que Jésus a été glorifié dans les lieux célestes, l'Esprit a été répandu sur tous les croyants. Après avoir entendu ce qui précède, certains d'entre vous se disent peut-être « Ok, je veux bien croire que j'ai reçu le don du Saint-Esprit, mais je ne vois pas trop sa puissance se manifester dans ma vie, ni dans la vie de l'Église. » Eh bien, frères et sœurs, si vous pensez ça, vous avez raison. Hélas, c'est ce qu'on peut constater en se regardant soi-même ou en regardant l'Église dans notre pays, surtout si on la compare avec l'Église primitive du temps des apôtres et de Paul. Mais pour autant, frères et sœurs, est-ce que cela remet en cause ce qui vient d'être dit ? Non. En effet, il y a une raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance de l'Esprit dans leur vie, bien que le Saint-Esprit demeure réellement dans leur cœur. La raison, frères et sœurs, c'est que ces chrétiens manquent de respect. Et ils manquent de respect parce que leurs yeux spirituels n'ont pas encore été ouverts au fait de sa présence. La réalité, elle est bien là, mais ils ne l'ont pas encore vue. Comment se fait-il que certains chrétiens vivent une vie de victoire, tandis que d'autres vivent dans un état de doute et de défaite, ou les deux ? La différence entre ces deux catégories de chrétiens ne provient pas de la présence ou de l'absence de l'Esprit, car l'Esprit habite dans le cœur de chaque enfant de Dieu. La différence, elle provient du fait que les uns reconnaissent que le Saint-Esprit demeure en eux. Demeure en eux, a fait sa habitation en eux, que Christ est en eux, que Dieu est en eux, dans leur corps. Tandis que les autres n'ont pas encore reconnu cela. Seule la révélation véritable du fait que l'Esprit demeure dans notre cœur peut révolutionner la vie de chaque chrétien. C'est pas écrit là, mais je voudrais faire un parallèle avec les hommes et les femmes qui ont commis des péchés dans leur vie et des péchés qui les empoisonnent. Pendant des fois des décennies. Ils ont beau entendre dans la parole de Dieu que si on confesse ses péchés, Dieu nous pardonne. Ils l'ont lu. Ils sont capables de comprendre ça. Mais ils ne le vivent pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui sait que quand on confesse ses péchés, Dieu nous pardonne ? Mais qu'il a beau le lire, le relire et le relire encore, il n'y a rien qui est rentré. Donc il est malheureux comme les pierres. Et à partir de la seconde où il comprend ça, c'est un homme nouveau ou une femme nouvelle. C'est exactement la même chose. Quand on sait intellectuellement que le Saint-Esprit demeure en nous, mais quand on ne l'a pas intégré, c'est exactement la même chose. Que je viens de dire à la fin, là, ça sera le sujet d'un prochain message. Et nous essaierons de comprendre que bien qu'ayant reçu le don de l'Esprit, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien qu'ayant reçu ce don, nous pouvons néanmoins continuer à marcher selon la chair et non pas selon l'esprit. À plusieurs reprises, Paul met en garde les croyants à ce propos. Si vous avez reçu l'esprit, dit Paul, marchez selon l'esprit. Et cette chose qu'on ne voit pas, là, malgré qu'on ait reçu l'Esprit, c'est parce qu'il y a des choses à laquelle on ne croit pas encore. Mais le Saint-Esprit veut que nous y croyions. Et il va tout faire pour que notre esprit change de cap, pour que notre compréhension s'éclaircisse et pour que nous comprenions enfin, si ça n'est pas déjà fait, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de la personne même de Jésus-Christ. Si tu ne viens pas nous révéler cela, Seigneur, toute la puissance qui est inscrite dans ces paroles restera lettre morte pour nous. On aura une idée de ce que c'est que le Saint-Esprit, mais on ne pourra pas le vivre. Alors que toi, Seigneur, tu nous as donné ton esprit justement pour qu'on puisse marcher selon l'Esprit. Et ça change tout. Alors Seigneur, s'il te plaît, toi seul peux convaincre les cœurs. Convainc-nous, s'il te plaît, Seigneur, pour que vraiment nous puissions marcher selon l'Esprit.